Vous écoutez, on lit pour vous.
Quelle température peut endurer l'humain? Un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 décembre 2024 dans La Presse. La réponse à cette question qui fascine les scientifiques est double, puisque les humains doivent surveiller deux températures. Celle à l'extérieur, mais aussi celle à l'intérieur de leur corps. Selon la littérature, les gens doivent éviter de s'exposer à des températures extérieures supérieures à 50 degrés Celsius. Quant à leur température interne, le débat fait toujours rage, mais il est rare de voir le thermomètre dépasser les 41 degrés Celsius. Pour ce qui est de la température extérieure supportable par un humain, généralement, quand on approche 50 degrés Celsius, il peut y avoir des dommages à la peau, dit le docteur Walid Javed, épidémiologiste à l'hôpital Mount Sinai à New York. Et entre 40 degrés Celsius et 50 degrés Celsius, il y a rapidement des problèmes de régulation de la température interne. Quand la température interne d'un humain dépasse 40 degrés Celsius, il peut y avoir des dommages aux organes si ça perdure trop longtemps, explique le docteur Javed. Le chercheur a publié une étude sur la température normale du corps humain en 2019 dans la revue Open Forum Infectious Diseases. Selon le chercheur, traditionnellement, on ne veut pas dépasser trop la température normale de 36,8 degrés Celsius. Mais ces dernières années, il y a une réévaluation du concept de température normale et aussi de la nocivité de la fièvre en cas d'infection. Pour la température interne, il faut distinguer ce qui est créé par la réponse du système immunitaire et la réaction du corps à une température externe élevée. Quand il y a une infection, la réponse immunitaire du corps humain augmente la température, pour des raisons que l'on comprend mal, dit le chercheur new-yorkais. Le plus que j'ai vu dans ces situations est 107 degrés Fahrenheit, 41,7 degrés Celsius. Une étude américaine, publiée en 1982 dans la revue universitaire Annals of Emergency Medicine, rapporte une température de 46,5 degrés Celsius comme le record absolu enregistré chez un humain, selon le docteur Javed. Il s'agissait d'un homme de 52 ans qui avait passé la journée à cuisiner tout en buvant de la vodka durant une vague de chaleur à Atlanta. Il est arrivé dans le coma aux urgences et a dû être traité pendant 3 semaines pour des dommages à ses organes, mais n'a pas eu de séquelles. Il s'agirait d'un record de température interne, selon le docteur Javed. Il a été chanceux de ne pas avoir des dommages permanents. Fièvre. L'incertitude sur les causes de la hausse de la température, la fièvre, causée par le combat du système immunitaire contre les infections, est la question scientifique qui a le plus d'impact concret. Depuis quelques années, rappelle le docteur Walid Javed, il y a des chercheurs qui disent qu'on ne doit pas chercher à diminuer la fièvre chez les adultes. Par exemple, on donne du Tylenol pour diminuer la fièvre quand on a le rhume. Est-ce que ça diminue l'inconfort mais rallonge l'infection? La question est ouverte. Il précise que le débat ne porte pas sur les enfants, les femmes enceintes et certains patients atteints de maladies chroniques pour qui la fièvre est plus dangereuse et que tout le monde s'entend qu'une fièvre trop élevée ou persistante doit être traitée. L'épidémiologiste du Mount Sinai a envoyé à la presse une étude de 2024 de l'American Journal of Medical Sciences qui fait état du débat sur la fièvre. À la mi-décembre 2024, dans la revue PNAS, des chercheurs chinois ont rapporté que le tilapia nage vers des eaux plus chaudes quand il a une infection. L'autre aspect important sur le plan clinique est l'estimation de la température normale du corps humain, sur laquelle porte l'étude de 2019 du docteur Javed. La température normale, 37 degrés Celsius, a été établi au milieu du 19e siècle par le médecin et psychiatre allemand Karl Wunderlich. Maintenant, elle est considérée de 36,8 degrés Celsius. On se rend compte qu'il y a plus de variabilité entre les individus que l'on pensait pour cette température normale, dit le docteur Javed. Plus on vieillit, plus notre température normale diminue, pour des raisons que l'on comprend encore mal. C'est pour ça que les personnes âgées ont souvent froid. Et il y a une différence entre les différentes méthodes de prise de température, rectale, orale, oreille, entre autres. Et entre hommes et femmes, il y a très peu de différence selon le docteur Javed. En savoir plus, moins 0,23 degrés Celsius, plus de 60 ans par rapport à celle de moins de 60 ans. Source Open Forum Infectious Diseases. C'était « Quelle température peut endurer l'humain ?» un texte de Mathieu Perrault, paru le 22 décembre 2024 dans La Presse.
Un dessin d'enfant a une valeur, sachez-le. Un texte de Mario Girard, paru le 27 mars 2024 dans La Presse. Un dessin d'enfant prend une valeur inestimable dans nos cœurs, même s'il est le 14e de la journée à nous être offert et qu'il est d'une grande insignifiance. Mais saviez-vous qu'un dessin exécuté par un mineur, qui n'a aucun statut d'artiste, est également protégé par la loi? Voici l'histoire renversante de Mario Perron, enseignant d'art plastique à l'école secondaire Westwood Junior à Saint-Lazare, dans la municipalité régionale du comté de Vaudreuil-Soulanges. Cet établissement fait partie de la commission scolaire Lester B. Pearson. Le 19 janvier 2024, ce professeur a proposé un exercice pour le moins original à ses 96 élèves de 7e et 8e année. Il leur a demandé de participer à un projet appelé « Creepy Portrait », qui consistait à créer un portrait effrayant d'un de leurs camarades ou d'eux-mêmes. Tout cela à la manière de l'artiste Jean-Michel Basquiat, reconnu pour son style combinant des signes manuscrits et des illustrations d'allure primitive. Le 8 février 2024, se questionnant sur les accomplissements professionnels de leur enseignant, comme cela est précisé dans la demande introductive d'instance, certains élèves ont effectué une recherche sur le web à partir de son nom. Quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que leur professeur proposait, sans leur consentement, sur le site Fine Art America, des articles, tasses, t-shirts, boîtiers à cellulaire, coussins, toiles sur canevas, etc., arborant leurs dessins. Le prix de ces articles allait jusqu'à 150 $. Il a été facile pour les élèves d'identifier leurs œuvres, car le prénom de certains créateurs apparaissait sur des articles. Alertés par les enfants, des parents ont alors formulé une mise en demeure. Les réclamations et plusieurs demandes injonctives formulées ont été ignorées. Mais voilà que le 22 mars 2024, 10 parents ont déposé devant la Cour supérieure une action collective de 1,5 million de dollars en vertu de la loi sur le droit d'auteur contre l'enseignant et la commission scolaire Lester B. Pearson. L'action réclame 155 000 $ par plaignant, une somme de 100 000 $ en dommages punitifs et une autre de 150 000 en frais de justice sont aussi demandés. De plus, les parents, dont le nombre pourrait passer à 13 selon Martin B. de Bellefeuille, avocat chargé de cette poursuite, exigent des excuses de la part de l'enseignant, le retrait des œuvres de tous les sites Internet, ce qui a été fait, et un compte-rendu des ventes réalisées à ce jour. À la commission scolaire Lester B. Pearson, on a refusé de me parler de cette histoire qui fait actuellement le tour du monde, se bornant à dire qu'on ne commente pas les enquêtes internes ou les questions relatives aux ressources humaines, d'autant plus que cette cause est maintenant devant les tribunaux. En découvrant cette affaire, vous serez tenté de dire « Mais comment un dessin d'enfant peut-il être protégé par la loi sur le droit d'auteur? » Toute forme d'art qui émane d'une personne appartient à son auteur, sauf si une entente est signée avec une autre partie, m'a expliqué Maître Martin B. de Bellefeuille. Le statut de l'artiste et l'âge du créateur n'ont aucune importance. Si quelqu'un d'autre s'approprie une œuvre pour l'exploiter, il doit le dommage qu'il cause au créateur. Fait important, la loi prévoit des dommages qui sont statutaires. Ça montre que les œuvres sont protégées même quand ce sont des mineurs qui les font, m'a dit Isolde Gendreau, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et spécialiste de la propriété intellectuelle. C'est un cas extrêmement rare. C'est la première fois que je vois ça. Le montant de la poursuite, qui s'élève à 1,5 million de dollars, frappe l'imaginaire. Est-ce exagéré? C'est un bon réflexe d'être allé vers les dommages statutaires, dit Isolde Gendreau. Cela dit, il faudra voir comment on calcule ces dommages. Ce que je trouve toutefois intéressant, c'est ce qui est réclamé comme dommage punitif. Est-ce que l'art qui émane d'un cours est la propriété de l'établissement ou de l'enseignant? Voilà une question qui devra être éclaircie. Là-dessus, François Lemoine, avocat spécialisé en droit de l'art et de la propriété intellectuelle, est formel. La seule exception pour ne pas être propriétaire de son œuvre, c'est être dans une situation d'emploi. Or, une commission scolaire n'est pas l'employeur d'un élève. Ce dernier garde son droit d'auteur. Et quant à l'enseignant, à moins d'un projet qui aurait fait l'objet d'une entente spéciale, il ne peut pas être propriétaire des œuvres de ses étudiants. François Lemoine croit que cette affaire devrait susciter une réflexion sur la question du droit d'auteur en milieu scolaire. Ça démontre qu'il y a une absence importante de sensibilisation aux droits d'auteur dans les écoles. Ça ne serait pas mauvais d'offrir une formation aux professeurs et aux étudiants. Il a parfaitement raison, car la chose qui m'étonne le plus dans cette affaire, c'est qu'un professeur d'art d'une école secondaire ait pu faire un tel geste en contournant la loi qui protège l'art et les créateurs. Méconnaissance ou aveuglement, dans ce cas-ci? La demande de créer un « creepy portrait » est venue d'une missive publiée sur Google Classroom, un outil que la commission scolaire Lester B. Pearson utilise pour communiquer avec les élèves et les parents. L'enseignant a fait cette demande en précisant qu'il fallait s'inspirer de l'œuvre de Basquiat et non la plagier. C'était « Un dessin d'enfant a une valeur, sachez-le ». Un texte de Mario Girard, paru le 27 mars 2024 dans La Presse.
Nos enfants sont-ils plus difficiles qu'ailleurs? Un texte de Francis Veille, paru le 9 mars 2024 dans La Presse. Les parents. Plusieurs des nombreux lecteurs qui ont réagi à ma récente chronique attribuent aux parents la responsabilité de l'alourdissement des classes aux primaires. Les lecteurs dont je vais vous parler ne sont pas des critiques déconnectées, mais des enseignantes d'expérience et des travailleuses sociales. Elles ne parlent pas de tous les parents, bien sûr, mais d'une proportion importante, plus grande qu'il y a quelques années. Ses parents sont soit débordés par le travail, soit anxieux de ne pas voir leurs enfants atteindre rapidement certaines normes, soit aux prises avec une garde partagée tendue. Entre autres, l'incompétence parentale est l'éléphant dans la pièce que personne n'ose regarder, me dit un enseignant au secondaire qui a aussi été directeur au primaire, entre autres, durant ses 22 ans de carrière. Selon une travailleuse sociale qui intervient auprès d'enfants de 6 à 15 ans, le surdiagnostic est une conséquence des problèmes de coparentalité, notamment, donc du manque de cohésion dans l'encadrement de base. Les parents ne vont pas bien. Les mères sont surchargées lorsqu'elles travaillent et les pères sont plus ou moins impliqués auprès des enfants. Les familles sont éclatées. Les parents n'ont plus l'énergie pour encadrer les enfants et laissent les enfants devant les écrans, me dit cette travailleuse sociale qui, comme la plupart, demande l'anonymat car elle n'est pas autorisée à parler publiquement. Cette travailleuse sociale agit auprès d'enfants qui ont des déficits d'attention, de l'hyperactivité, des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles du développement et de la coordination, entre autres. Éduquer des enfants prend du temps et de l'énergie. Les parents veulent que l'école éduque leurs enfants, mais ce n'est pas le rôle de l'école, qui est celui d'instruire, mais des parents, m'écrit-elle. Le témoignage d'Élise Prévost, enseignante depuis 13 ans, va dans le même sens. La déresponsabilisation des parents et leur manque de disponibilité ont un impact énorme, dit-elle. Quand le gouvernement remarque que les enfants ne se brossent pas assez les dents, on demande au CPE de le faire, plutôt que de responsabiliser les parents. Quand les jeunes ne jouent pas assez dehors ou ne font pas assez de sport, ce sont les récréations à l'école qui sont prolongées ou les périodes d'éducation physique, plutôt qu'une sensibilisation des parents, poursuit l'enseignante. Moins de bricolage, plus d'écran. Une autre lectrice, enseignante au secondaire qui a elle-même deux enfants, juge que les parents devraient s'interroger sur leurs pratiques. Combien d'heures votre enfant dort-il par nuit? Combien d'heures de sport fait-il par semaine? Combien d'heures passe-t-il devant un écran, cellulaire, jeux vidéo, réseaux sociaux? Combien de kilomètres marche-t-il? Combien d'heures passe-t-il hors de la maison, école et services de garde? Combien d'heures de lecture fait-il? Combien de soupers en famille faites-vous par semaine? Une autre enseignante, qui travaille au primaire depuis 30 ans, affirme que la situation s'est dégradée ces dernières années, peu importe les milieux scolaires qu'elle a fréquentés. Elle constate qu'il y avait moins de cas de troubles de langage à ses débuts, ce qu'elle attribue à la présence plus grande de la technologie aujourd'hui. Les enfants sont moins stimulés par les parents. Les passe-temps à la maison ne sont plus les mêmes. Lire, dessiner, colorier, bricoler, faire des jeux de rôle. Ces activités favorisaient le développement de la motricité fine et la communication. Les parents branchés en permanence sur leur cell parlent beaucoup moins à leurs enfants, dit cette enseignante, qui remarque tout de même qu'on décèle des cas aujourd'hui qu'on ne diagnostiquait pas autrefois, notamment pour un trouble dans le spectre de l'autisme. J'ai vu un changement s'opérer quand les services de garde ont fait leur entrée dans les écoles. Des enfants sont stationnés à l'école de 7h à 17-18h, avec le dîner et la collation de la fin des classes à leur bureau. L'école n'est plus vue comme un lieu d'apprentissage, mais une grosse garderie, ajoute-t-elle. Dépistage précoce, des effets pervers. Une autre travailleuse sociale au secteur jeunesse affirme, au contraire, que certains parents s'en font inutilement. Elle le constate avec le mode de dépistage précoce, notamment le programme Agir tôt, 0-5 ans, qui a des effets pervers, selon elle. Combiné à l'anxiété des parents de ne pas avoir un enfant parfait, ce genre de programme pousse à la surconsultation, ce qui a pour effet d'engorger le système de jeunes enfants qui cheminent pourtant normalement. on ne laisse plus les enfants être des enfants et on ne permet plus aux parents de développer leur gros bon sens. On leur donne plutôt, dès la naissance de leur enfant, des standards à atteindre et on s'étonne du résultat. Ces récriminations du milieu scolaire à l'endroit des parents ne sont pas nouvelles, et il est difficile de savoir si la situation du Québec diffère de celle des autres provinces. Le taux d'emploi plus grand au Québec qu'ailleurs chez les 25-44 ans, 87 % contre 84 % en Ontario, qui se traduit par des situations où les deux parents travaillent à plein temps, a-t-il un effet? Il reste que le rôle des parents est crucial et rempli de défis. Il faut savoir encadrer, savoir influencer, savoir imposer le dodo, savoir quand faire preuve de souplesse ou pas, savoir piler sur son orgueil, savoir accepter les différences de son rejeton, savoir développer ses particularités, savoir valoriser, savoir être patient, savoir communiquer, savoir transmettre les valeurs. Bref, savoir aimer. Captivant, mais pas facile d'être parent. C'était « Nos enfants sont-ils plus difficiles qu'ailleurs ?» Deuxième de deux articles, un texte de Francis Vaille, paru le 9 mars 2024 dans la presse.
Le perfectionnisme n'est pas mon pire défaut. Un texte de Stéphane Dompierre, paru le 9 juin 2024 dans la presse. L'autre jour, dans un lancement de livre, un gars me parlait, convaincu que sa conversation à sens unique m'intéressait. Sans doute que mon air songeur l'a berné. J'avais l'air de trouver ses paroles profondes, mais j'étais plutôt occupé à me poser 1000 questions. Est-ce que cette personne est consciente que son narcissisme est très irritant? Est-ce son pire défaut? Est-ce que les gens ont conscience de leurs défauts en général? Et si oui, cherche-t-il à les corriger ou les entretient-il? Et comment fait-on pour s'en débarrasser ou, à tout le moins, les atténuer? Y a-t-il un mode d'emploi? Je me suis renseigné. Le processus est assez clair et un peu long, mais facile à trouver si ça vous intéresse, alors je ne vais pas m'étirer là-dessus. Mais la base, évidemment, c'est de réussir à les trouver. Connaissez-vous votre pire défaut? Ceci n'est pas une entrevue d'embauche, alors inutile de répondre spontanément « Je suis trop perfectionniste ». Si oui, vous faites quoi avec? Vous tentez de le cacher? Vous l'entretenez comme une plante délicate parce que vous trouvez qu'il n'est pas si mal, que c'est juste un trait de personnalité? Et si vous gossiez tout le monde avec ça, mais que personne n'osait vous le souligner? Je vous révèle le mien. À la base, je crois que tout le monde est malveillant. Je prête à tous des intentions louches. Jusqu'à preuve du contraire, toute personne qui m'est inconnue est fort probablement machiavélique ou, à tout le moins, mal intentionnée. J'ai découvert ce petit trait gossant il y a quelques semaines, la fois où j'ai ouvert le bac géant, il venait avec le duplex, on peut se cacher 6 dedans, pour voir si notre recyclage avait été ramassé. Sur les boîtes vides trônait une douillette bariolée qui ne nous appartenait pas. Soucieux de l'environnement, mais surtout peu intéressé à ce que les videurs de bac me jugent, je l'ai sortie pour la mettre dans un sac poubelle. Elle était mouillée. Mouillée de quoi, je l'ignore. Je ne l'ai pas sentie. C'est là que mon défaut de prêter des intentions débarque à grand bruit. Je ne vois qu'une explication. Un voisin a mis un appartement sur Airbnb. Des gens l'ont loué pour y tourner un film porno, ont voulu jeter la douillette cheap sur laquelle avait eu lieu l'humide performance, ont mis ça dans mon bac et sont partis insouciants vers d'autres aventures. Je suis sans doute loin de la vérité, Mais ça ne m'a pas empêché, après avoir mis ce truc mouillé dans un sac poubelle, de me laver les mains pendant une heure. Pour me guérir de ce réflexe épuisant de toujours imaginer le pire, j'essaie dorénavant d'imaginer un nouveau scénario chaque fois, mais en y insufflant de l'empathie et de l'humanité. Un enfant gêné d'encore s'échapper dans son lit à son âge. Il dort sur une vieille douillette au cas. Il se réveille à l'aurore, consterné de voir qu'il s'est encore échappé. Il sort de la maison en douce et cherche à se débarrasser de la douillette incriminante. Il voit mon bac de recyclage géant. Monte sur une très haute échelle pour atteindre le couvercle du bac. Jette la douillette de la honte dedans. Je suis sans doute encore tout aussi loin de la vérité, mais ce scénario mérite beaucoup moins. Quand, en voiture, quelqu'un conduit excessivement lentement devant moi, c'est une évidence que cette personne profite de son trajet pour écrire des commentaires haineux sur Facebook sans regarder la route, se prépare à tirer des passants au hasard ou tricote un petit chandail en laine pour l'antéchrist qui viendrait de naître. Alors que cette personne cherche peut-être une adresse en tentant de n'écraser personne. Je suis d'ailleurs souvent cette personne qui roule lentement en cherchant une adresse et en tentant de n'écraser personne. Je le constate, je m'en sors plutôt bien, puisque ça se joue dans ma tête et que mon entourage ne le remarque pas vraiment. Tant qu'à faire, j'aurais presque pu dire « je suis trop perfectionniste ». Je ne suis sans doute pas la meilleure personne pour cerner mon pire défaut. Je devrais peut-être plutôt demander à mes amis, ou mieux encore, à des personnes qui ne m'aiment pas la face. Mais ça me fait un peu peur, on dirait. Ils vont sans doute me répondre qu'il est dur de choisir dans la longue liste qui leur vient spontanément en tête, me souligner que je suis acerbe, aigri, arrogant, arriviste, asocial, qu'on peut m'en trouver au moins 5 à chaque lettre de l'alphabet, et que... Bon, ça y est. Voilà que je prête encore les pires intentions aux gens. Je vais continuer de travailler sur ce défaut-là, je pense. Et vous? C'était « Le perfectionnisme n'est pas mon pire défaut », un texte de Stéphane Dompierre, paru le 9 juin 2024 dans La Presse.